autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour nous interroger sur la conscience. La conscience de soi et des autres, une faculté encore très mystérieuse du vivant en général et des humains en particulier. C'est précisément ce mystère de la conscience que cherche à éclairer notre invité, le célèbre neuroscientifique Antonio Damasio, professeur de neurosciences, de psychologie et de philosophie à l'Université de Californie du Sud à Los Angeles, directeur du Brain and Creativity Institute, internationalement reconnu pour ses travaux et ses découvertes sur le rôle clé des émotions et des sentiments dans nos comportements. Auteur de L'erreur de Descartes et de Spinoza avait raison, des best-sellers traduits dans une trentaine de langues, Antonio Damasio vient de publier chez Odile Jacob « Sentir et savoir », une nouvelle théorie de la conscience. Il a profité de son passage à Paris pour partager avec nous ses surprenantes recherches et ses réflexions originales autour de la question « Pourquoi la conscience émerge aussi de nos sens ?» Bienvenue dans notre fort intérieur, mis en onde et dans tous les sens par l'autrice de podcast Elsa Denac.
En direct du cerveau humain, c'est peut-être un titre un peu ambitieux.
Je a une tête, vous a une tête, il et elle ont une tête. Pourtant, je ne crois pas pareil que vous, qui ne voit pas pareil que il, qui ne vit pas comme elle. J, E, je.
Qu'est-ce que c'est qu'une identité ? Comment est-ce que ça se fabrique et où ça se trouve, cette identité ? Où est-ce qu'elle se trouve ? Est-ce qu'elle est dans le corps ? Est-ce qu'elle est dans l'âme ? Est-ce qu'elle est ailleurs ? Et si oui, où ça ?
Je perçois, je agis, je me souviens, je désire. Mais qui est ce « je » au juste ? Subjectivité. À chacun sa marotte. La mienne consiste à explorer la subjectivité, le regard unique que chacun d'entre nous porte consciemment sur lui-même et le monde qui l'entoure.
Voulez-vous ouvrir les yeux, madame ?
Je vois, je crois.
Ouvrir l'œil, percevoir, habiter, déchiffrer.
Je crois à ce pigeon devant moi et je crois à un dieu là-bas. Je suis, vous êtes, nous sommes, nos subjectivités coexistent.
Et votre tête, à vous, où est-elle ?
Bah, au même endroit que vous, au bout de mon cou.
Que se passe-t-il dans nos petites têtes au bout de notre cou ? Et je vois que ça vous fait rire, Antonio Damasio, et surtout en lien avec notre corps. Bonjour, cher Antonio Damasio.
Bonjour, bonjour.
Merci d'avoir profité de votre passage à Paris pour venir dans notre studio sur RFI, éclairer donc, alors c'est peut-être le plus grand des mystères, hein, celui de la conscience, une nouvelle théorie de la conscience. C'est le sous-titre de votre dernier ouvrage qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob, « Sentir et savoir », dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs, qui vous aussi, on l'espère, avez une conscience, c'est-à-dire un cerveau et un corps, pour sentir et savoir. Alors, sentir et savoir, justement, deux mots qui résument de façon lumineuse l'essentiel de vos recherches, Antonio Damasio, de vos travaux et de vos découvertes qui ont révolutionné, on peut le dire, notre compréhension du cerveau et du comportement humain. Rappelons que vous êtes, si ce n'est le plus éminent neuroscientifique contemporain, mondialement connu et reconnu pour avoir exploré, approché toutes les facettes de la conscience en lien avec nos sensations, nos perceptions, nos sentiments. C'est vous qui avez révélé ce qu'on appelle un peu rapidement le cerveau des émotions. Précisons que vous êtes professeur de neurosciences, de neurologie, de psychologie et de philosophie à l'Université de Californie du Sud à Los Angeles, où vous dirigez, Antonio Damasio, le Brain and Creativity Institute, l'Institut du cerveau et de la créativité. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages révolutionnaires eux aussi, mais devenus des références, traduits dans une trentaine de langues. Citons les plus célèbres d'entre eux, L'erreur de Descartes et Spinoza avait raison. Vous ne cessez de vous approcher de plus en plus de ce mystère qu'est la conscience, Antonio Damasio, jusqu'à proposer donc dans ce dernier essai rien moins qu'une nouvelle théorie de la conscience. C'est possible aujourd'hui ?
Oui, je pense que c'est possible et je suis très content de penser qu'on fait des petites avances dans le problème. C'est un grand problème, évidemment, savoir qu'est-ce que est la conscience. Et dans ce livre, je me concentre sur le problème des sentiments. Et vraiment, c'est bon de faire une distinction entre sentiment et émotion.
C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Et émotion, c'est quelque chose de vraiment plus simple. J'aime définir les émotions comme des petits concerts. C'est collection d'actions, c'est collection de mouvements qu'on peut faire. Et il y a les mouvements que nous connaissons, comme par exemple quand on est plein de joie ou quand on est triste, quand on a de l'angoisse, quand on a de la peur. C'est toujours des mouvements qui sont présentés dans notre corps. C'est du théâtre, vraiment. Et les autres peuvent bien regarder ces mouvements, regarder ces concerts et comprendre un peu ce qui se passe dans nous.
À l'intérieur, hein, en regardant l'expression de nos émotions.
Exactement. Hein, mais les sentiments, c'est autre chose. Les sentiments sont privés, les sentiments sont des choses pour nous. Ce n'est pas du théâtre, c'est seulement dans nous. Et il exprime, les sentiments, ce qui se passe dans notre corps vivant. C'est la manière d'exprimer, de nous informer si la vie se passe bien ou se passe mal ou quelque chose de in between.
C'est essentiel à notre vie, à notre, pas seulement à notre comportement, mais c'est totalement fondamental. C'est
absolument,
ça, hein,
absolument. Et pour moi, et c'est bien la chose nouvelle, quand vous me demandez qu'est-ce que c'est cette nouvelle théorie de la conscience. Alors l'essentiel, c'est que la conscience commence avec les sentiments. Sans sentiment, ça ne serait pas possible d'avoir conscience. La conscience est le début. C'est l'annonce qu'il y a quelque chose de nouveau que notre organisme vivant a produit, qui a produit avec l'aide du cerveau. Il y a un système nerveux et ce système nerveux nous donne la possibilité de transmettre des informations sur l'état de la vie. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que, par exemple, des organismes vivants déjà complexes et déjà comme nous au sujet du vivant, mais quand même plus simples, comme les bactéries, ils n'ont pas de sentiments. Il n'y a pas d'esprit là parce qu'ils n'ont pas de système nerveux. Quand même, ils ont une vie et c'est une vie régulée qui se passe bien ou mal, comme dans notre cas. Mais dans notre cas, il y a quelque chose de bien plus complexe et beau, c'est qu'avec un système nerveux, on a la possibilité de créer des maps, de créer des images,
des cartes
qui vont nous faire cet esprit dont je parle.
Et donc c'est d'abord ces sensations, donc le corps, relayé par le système nerveux, donc il passe par le cerveau.
Oui, et le système nerveux nous transmet les images de notre corps. C'est vraiment ça. Avoir un sentiment de plénitude, un sentiment de faim ou de douleur, c'est avoir une image du corps dans un certain état. Et l'image du corps quand on a faim ou quand on a peur ou quand on a de soif, quand on a de la douleur ou quand on a de bien-être, sont des images différentes. Et c'est ça, c'est cette transmission de l'état du corps, de l'état de la vie, qui les sentiments nous amènent dans notre esprit.
Et c'est ça la conscience. Alors au fond, vous résumez ça aussi par une question formidable, hein, qui est au cœur de votre ouvrage. Pourquoi sommes-nous des créatures sensibles, douées de pensée, et des créatures pensantes, douées de sentiments? Magnifique définition de notre humanité.
Oui, parce que c'est une belle histoire. Si vous imaginez les sentiments comme la première étape de la conscience, c'est cette ouverture au monde de la conscience. Alors, il y a un tas de choses qui sont passées dans notre évolution. Nos systèmes nerveux sont devenus plus complexes. Ils sont devenus capables aussi de faire des maps non seulement du corps et de la vie, mais des choses qui se passent autour. Il y a des images qui nous viennent par les yeux, des images qui nous viennent par l'audition, des images des choses que nous cherchons à tâtons. Et tout ça nous donne une image très complexe du monde autour de nous. Et évidemment, quand nous parlons aujourd'hui de la conscience, ce n'est pas seulement la conscience de notre corps, c'est la conscience de ce qui est autour de nous.
Conscience de nous, conscience de l'extérieur, conscience de ce qui nous arrive.
Oui.
C'est fabuleux. Et tout ça se passe pendant qu'on se parle là et qu'on se regarde, cher Antonio.
Exactement, exactement. Et aussi toutes les choses qui ont été ajoutées, par exemple, la possibilité de traduire tout ça par exemple, en langage verbal. À ce moment, évidemment, je vous regarde, vous me regardez, ça c'est bien, mais aussi, il y a tous ces mots dans lesquels j'essaie de m'exprimer dans mon pauvre français.
Très beau français.
Ce qui se passe dans ma pensée.
Ouais.
Et c'est une traduction. Et évidemment, il y a d'autres formes de traduction, comme par exemple des langages de la mathématique et dans d'autres langages qu'on dispose aujourd'hui, mais et c'est ça que nous va permettre de faire le raisonnement, nous va permettre de faire des mémoires, des choses qui se passent dans nous et autour de nous.
De conscience à conscience, de corps à corps aussi, de cerveau à cerveau, c'est un peu ça qui se passe entre nous et avec nos auditeurs de l'autre côté du poste.
Évidemment, nous utilisons toutes ces formes de langage pour transmettre ce qui se passe dans nous. Mais ça ne serait pas possible sans cette capacité d'abord de vivre et de vivre une vie régulée par quelque chose. Il y a un mot très spécifique dont je parle, je dois le dire,
l'homéostasie.
Merci.
L'homéostasie qui fait qu'il y a une régulation à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on vit et qu'on s'ajuste et qu'on s'adapte.
Parce que la vie est quelque chose qui doit être en équilibre. Et si cet équilibre est périlleux, alors il y a d'abord la souffrance, la douleur, et après il y a la mort, évidemment.
Autour de la question, pourquoi donc cette conscience, on l'a compris, qui passe à la fois par la raison et par les sentiments. Pourquoi la conscience passe aussi donc par nos sens? Comment toutes vos recherches, vos découvertes, aussi Antonio Damasio, influencent les autres chercheurs en neurosciences, enfin ceux qui ont l'esprit un peu ouvert et qui tentent aussi de percer les mystères de la conscience, de la subjectivité, du fonctionnement de notre cerveau humain, donc l'organe peut-être le plus complexe de l'univers, à moins qu'on soit un peu mégalo en pensant ça. Je vous propose en tout cas, Antonio, d'écouter l'éclairage un autre éminent neuroscientifique qui s'intéresse de très près à votre travail et que vous connaissez pour avoir partagé de nombreuses discussions, mais aussi la même éditrice, Odile Jacob. C'est Lionel Nakache, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, professeur de médecine à Sorbonne Université et membre du Conseil consultatif national d'éthique, écrivain lui aussi, inspiré par tous les arts et qui vous interroge en toute conscience de ce que vous êtes et de ce que nous sommes.
Bonjour à Antonio Damasio. Eh bien, avant tout, pour vous répondre, Caroline, évidemment, il faut que je signale aux auditrices et aux auditeurs de RFI que personnellement, moi, je nourris depuis longtemps une très grande admiration pour les travaux d'Antonio Damasio. Et au passage, j'invite d'ailleurs tous les auditeurs, auditrices à lire ou à relire son magistral L'erreur de Descartes, qui était son premier très grand livre. Et cette admiration, elle est nourrie surtout par ses travaux et aussi par la position théorique qu'occupe Antonio Damasio dans le champ des neurosciences de la conscience. Et peut-être je peux en dire un mot parce que c'est une position très originale, on pourrait dire même très courageuse parce qu'elle est d'ailleurs à contre-temps parfois d'autres théories. Alors en un mot, la position d'Antonio Damasio vise, on pourrait dire ça comme ça, à tenter d'insuffler la chair du corps vivant dans la conception strictement informationnelle de l'esprit qui est défendue par les neurosciences cognitives plus traditionnelles. Et la position d'Antonio Damasio, elle ne vient pas du tout contredire cela, mais elle vient ajouter quelque chose, elle vient dire en fait, pour Antonio Damasio, cette conception informationnelle, elle est absolument indispensable. En gros, un système nerveux qui fonctionne bien est fondamental pour la conscience. Sans ça, il n'y a pas de conscience, mais il faut aussi un corps. Il faudrait en fait qu'il y ait un couplage extrêmement riche, extrêmement permanent entre le reste du corps, on va dire, et le cerveau pour faire naître la conscience, notamment la conscience de soi et la conscience en général. C'est ça la grande thèse, la grande idée de Damasio, c'est qu'il y a une sorte de conscience incarnée, si vous voulez. C'est la théorie, la solution, on pourrait dire, de Damasio au vieux problème corps-esprit qui traverse l'histoire de la pensée, de la philosophie et aujourd'hui des neurosciences, par exemple.
Et justement, Lionel Nakache, vous qui travaillez aussi sur la conscience, il y a d'autres chercheurs en neurosciences aujourd'hui qui ne pensent pas comme Antonio Damasio, qui pensent que finalement on pourrait expliquer la conscience, avoir une conscience, même si ça n'était pas relié, incarné, relié à un système nerveux, relié à un corps. Il y a des chercheurs qui pensent cela et qui le montrent aussi. Vous vous situez où, vous, Lionel Nakache, entre ceux qui pensent à une conscience incarnée comme Antonio Damasio et ceux qui pensent qu'une conscience pourrait aussi exister sans même un corps pour l'incarner?
Alors, sans chercher à satisfaire tout le monde, en fait, la position que je défendrais là serait un peu à mi-chemin de ce que vous avez parfaitement résumé. C'est-à-dire, d'un côté, il y aurait la conception conscience incarnée à la Damasio, et d'autres personnes qui pensent comme Antonio Damasio. Et de l'autre côté, une version plus radicale, comme je viens de la résumer, c'est même une vieille métaphore de la pensée, c'est brain in a vat, un cerveau dans un bocal. Est-ce qu'un cerveau déconnecté du corps pourrait être conscient ou pas? Est-ce qu'une conscience artificielle, qui serait des simulations de réseaux de neurones, pourrait l'être ou pas? Donc, les deux extrêmes existent. Et comme vous savez, en science, on aime bien aussi les théories radicales. C'est ce qui permet, par les échanges, la confrontation, de faire avancer. Alors, ma position personnelle, elle est à mi-chemin, mais non pas de manière normande ou de manière en même temps, c'est pas une version politique dit en même temps appliquée à la conscience. C'est plutôt de dire, en fait, que mon intuition, c'est la suivante. C'est que je pense que le cerveau a besoin d'être en communication avec le reste du corps, très probablement pour faire émerger cette conscience de soi. Et donc, je pense qu'il pourrait y avoir une période critique dans le développement de l'individu, qui fasse que si on n'a pas ces interactions corps-cerveau, disons cerveau et reste du corps, avec l'homéostasie du corps que Antonio Damasio développe beaucoup, eh bien si on n'avait pas ça, je pense qu'effectivement, comme Antonio Damasio le dit, sans doute, peut-être, nous ne pourrions pas accéder à la conscience au niveau individuel. Mais là où je serais peut-être en discussion avec lui, c'est de proposer qu'une fois que cette période critique est acquise, et là on ne sait pas si c'est quelques semaines, quelques mois, in utero, le début de la naissance, etc., mais une fois que cette émergence de la conscience de soi a pu survenir dans un individu, eh bien à ce moment-là, ce contenu conscient qui va circuler dans vos réseaux cérébraux de la même façon que n'importe quel autre contenu ne requierrait plus nécessairement les interactions avec le corps de manière aussi nécessaire. Autrement dit, votre cerveau communique toujours avec le reste du corps, mais probablement pour la conscience, on pourrait avoir une période critique au début du développement où il faut absolument qu'il y ait ce dialogue, ce couplage corps-cerveau, mais qu'une fois que cette conscience de soi arrive à se développer, alors peut-être que là, vous n'en avez plus autant besoin du reste de votre corps, et je le dis parce que Antonio le sait très bien, il y a des patients totalement déconnectés, des patients locked-in syndrome ou d'autres patients qu'on explore, chez lesquels on peut identifier que ces patients sont conscients, qu'on peut communiquer avec eux, alors qu'ils n'ont plus, en tout cas de manière très très appauvrie, les interactions avec le reste du corps. Et puis, lors du rêve, lors de rêveries éveillées, on peut arriver à développer des contenus conscients très riches sans avoir nécessairement des couplages avec le corps tels que ces couplages surviendraient si on était en train de vivre vraiment, corporellement, les états mentaux qu'on imagine ou qu'on rêve. Donc voilà ma question pour Antonio, c'est est-ce qu'il serait d'accord avec l'idée qu'on puisse avoir un rôle très important de ces interactions couplage corps-cerveau, corps-esprit, voilà, je fais des lapsus moi-même, pendant une période critique du développement, mais qu'ensuite, ce n'aurait pas le rôle aussi important qu'il propose.
Qu'en pensez-vous, Antonio Damasio ?
Bon, d'abord, je pense que Lionel Nakache est un collègue merveilleux. J'aime bien ses travaux et j'aime bien ce qu'il vient de dire. Et je dois dire que je suis d'accord avec lui. Mmh. Son mi-chemin, comme il l'a dit, à une vitesse foudroyante. c'est son mi-chemin que je partage. La chose que je veux, que j'insiste, c'est qu'on ne peut pas commencer cette grande histoire de conscience sans avoir le corps, sans avoir la vie, évidemment, sans avoir les sentiments.
Et après, ça, il faut s'ancrer là. Enfin, en fait, on est ancré là et on ne peut pas avoir une conscience sans un corps. Mais ensuite, une fois que la conscience a émergé, on pourrait peut-être... Enfin, c'est moins important.
C'est moins corps. Important et c'est de moins en moins important à la façon dont on émerge et quand on va dans les choses les plus abstraites, quand on pense vraiment au sujet de nos perceptions, alors là, c'est possible d'avoir une certaine indépendance. Mais si vous n'avez pas cette base, ce soutien qui vient de la vie et du corps et des sentiments, alors je pense que ce n'est pas possible d'avoir la grande conscience que nous avons aujourd'hui. Alors c'est vraiment ce que j'insiste, c'est l'idée du commencement de ce processus.
De l'émergence de la conscience, donc impossible qu'un cerveau soit dans un bocal, une conscience ne peut émerger que dans un sens. Autour de la question pourquoi notre conscience émerge grâce à nos sens, allez, on va leur faire plaisir à nos sens, à nos oreilles, à notre cœur aussi. Vous avez choisi d'écouter un morceau qui donne le frisson, un petit frisson sur la peau, des fourmis aussi peut-être dans les jambes, qui sait. Ella Fitzgerald et Louis Armstrong réunis pour chanter « I Won't Dance ».
Think of what you're losing by constantly refusing to dance with me. You'd be the idol of France with me. And yet you stand there and shake your foolish head dramatically while I wait here so ecstatically. You just look and say emphatically,
not this season. Yes, there's a reason. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things they should do. Yes, you know what? You lovely. So what? You still lovely. But oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that bumps on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. Yes, when you dance, you jump in and you gentle. Especially when you do the continental. But this feeling isn't truly mental. For heaven rest us, I'm not asbestos. And that's why I won't dance. Why should I won't dance. How could I won't dance. Mercy be good. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance.
I won't dance. Don't ask me. I won't dance. Don't ask me. I won't dance, monsieur, with you. My heart won't let my feet do things they should do.
Magnifique choix musical, Ella Fitzgerald, I won't dance with you, monsieur Louis Armstrong. Pourquoi ce choix, Antonio Damasio?
Parce qu'il y a là un merveilleux vers qui dit For heaven help us, I'm not asbestos. Et ça, c'est très difficile à traduire. Le traducteur en français a dit « Car par le ciel, votre feu m'appelle ». Et c'est évident qu'il y a un feu corporel. Mm-hmm. Mais en anglais, on dit « For heaven help us », le ciel nous aide. « I am not asbestos », ça veut dire « Je ne suis pas faite de quelque chose de matériel sans vie ». Et c'est ça va vraiment au cœur de mon idée. Elle dit, et il dit, qu'il est très ému, il est très enchanté.
Transporté.
Parce qu'il y a un corps. Parce qu'il y a encore. Et il dit, I am not asbestos. Je ne suis pas fait de quelque chose de matériel sans vie.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on est tout ça à la fois. C'est parce qu'on a un corps qu'on est appelé, mais on n'est pas du tout fait. Enfin, notre corps, il est animé.
Animé.
Animé. On entend bien, il y a bien le mot. Enfin, âme, la danse, c'est d'une autre manière, mais c'est quand même ça. La conscience et l'âme, l'esprit, le corps et tout ça ensemble.
Et c'est ça. Et c'est ce qu'elle dit et ce qu'il dit. C'est que ils sont l'attraction qu'ils sentent pour l'autre va animer ses corps et va changer leur vie à ce moment. Il y a ce changement. Et il dit I won't dance. Je ne veux pas danser parce que j'ai la peur de ce que ça va faire.
C'est ça. Jusqu'où ça va m'entraîner. Je ne vais plus rien maîtriser, rien retenir. Oui. Mon corps va m'entraîner. Mais il va s'en sent conscient.
Il va perdre le contrôle.
C'est ça. Voilà.
Et c'est ça l'idée. C'est très difficile de traduire. Mais c'est très charmant. Il était deux chanteurs, absolument, deux musiciens merveilleux. Et Cole Porter, qui a écrit les mots et la musique, était vraiment un grand flâneur. Et
sacré musicien, sacré artiste, évidemment, qui sont conscients autour de la question. On l'a bien compris pourquoi. La conscience passe aussi par nos sens et autour de votre dernier essai, dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs. Antonio Damasio, sentir et savoir, une nouvelle théorie de la conscience. On continue de nous interroger. Est-ce que c'est le propre de nous, êtres humains, la conscience? Allez, c'est tout le sens de la question que vous pose un autre formidable défricheur, empêcheur de penser en rond, le physicien et philosophe Carlo Rovelli, co-inventeur de la théorie de la gravitation quantique à boucle, qui nous entraîne une fois encore aux limites, un peu comme vous, de ce qu'il est possible de connaître et de comprendre avec notre cerveau humain.
Quels sont les animaux qui sont conscients? Est-ce qu'un chat, une mouche, un virus, jusqu'où arrive la conscience? Parce qu'il y a des gens qui disent conscience et pensent que c'est quelque chose qui caractérise les hommes seulement. Et d'autres qui entendent pour conscience quelque chose de beaucoup plus vaste qu'on partage avec certains animaux. Donc conscience, finalement, c'est un mot très flou qui peut vouloir dire des choses très différentes.
Antonio Damasio, votre réponse et votre définition de la conscience, on y arrive.
Bon, je pense que la conscience est partagée avec beaucoup, beaucoup d'animaux. Ce n'est pas tous les êtres vivants qui sont conscients, évidemment, mais tous les animaux dont on vient d'entendre...
Un chat, une mouche, le chien... Le chien, évidemment, le singe, l'éléphant, tous ceux qui se reconnaissent dans le miroir, évidemment, mais pas que.
Il y a presque tous les vertébrés sont, ont de la conscience. Alors, il faut... c'est extrêmement pourquoi l'idée des sentiments et l'idée de l'homéostasie, l'idée de la vie, de l'information sur la vie, c'est très important. C'est parce que tous ces animaux ont une conscience comme je la défine.
Ils ont un corps vivant
qui peut être bien ou mal.
Un corps vivant, un système nerveux, c'est ça
Oui, il y a un corps vivant, il y a un système nerveux. Et le système nerveux, évidemment, nous ne pouvons pas être 100% sûrs, mais je pense qu'il y a là des informations, parce qu'on voit, quand on voit ces animaux-là, et quand on voit un animal qui souffre, nous sommes capables de faire le diagnostic de cette souffrance. Alors, ça veut dire qu'il y a un sentiment, et on voit des animaux, on peut percevoir la joie, on peut percevoir la souffrance, on peut percevoir la peur, l'inquiétude, tous ces formes de l'affectif qui sont présents dans tous ces animaux. Alors, du même temps, comme j'avais dit là-haut, une bactérie sans système nerveux et des systèmes vivants très très simples sans système nerveux, alors je pense qu'ils n'ont pas de la conscience dans notre sens, parce qu'ils n'ont pas des sentiments. Ce n'est pas possible de le faire.
Mais, pas possible d'avoir une conscience donc sans sentiments. Est-ce que quand on parle de conscience chez les autres animaux, alors pour ce qui est des éléphants, des oiseaux, des singes, des dauphins, on vous suit tout à fait. Pour ce qui est d'autres animaux, est-ce qu'ils ont conscience d'avoir conscience? Est-ce que c'est une autre limite?
Ça, c'est plus difficile à dire. Je dirais dans beaucoup de cas, j'imagine qu'ils n'ont pas conscience de leur conscience. Mais ça, peut-être ne sera
c'est
pas
c'est accessoire pour vous, c'est pas fondamental, cette conscience d'avoir conscience.
Oui, c'est évident que nous avons ça, et peut-être
nous, êtres humains,
mais il y a de beaucoup d'animaux complexes qui, je pense, ont quelque chose de comparable à notre conscience d'avoir conscience.
Autour de la question, à quoi ça sert la conscience? Tiens donc, on a commencé à le comprendre, hein, on comprend bien que c'est pour équilibrer, c'est pour la vie, c'est pour ressentir à la fois ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe à l'extérieur de nous et s'y adapter. Mais je vous propose d'écouter la réponse, elle est plutôt inattendue, d'un autre éminent spécialiste de la conscience que vous connaissez également, bien sûr, le professeur Stanislas Dehaene du Collège de France, où il est titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale, international seulement reconnu, bien sûr, pour ses travaux, ses recherches, ses découvertes et ses ouvrages sur l'émergence de la conscience, mais aussi sur l'apprentissage du langage ou du calcul. Il est également, Stanislas Dehaene, aujourd'hui président du comité scientifique de l'éducation nationale. Écoutez donc son éclairage autour de la question « À quoi sert la conscience ?»
Dans notre laboratoire, on a pu montrer quand même qu'il y avait certaines opérations qui étaient entièrement dépendantes de la conscience. Et notamment le fait de prendre conscience de ses erreurs, le fait de corriger ses erreurs, vous voyez. Il faut que j'ai pris conscience de ce que je suis en train de faire pour me rendre compte que c'est une erreur, que je suis en train de me tromper. Voilà donc une situation où je contrôle mes propres activités avec une certaine lenteur. Il faut du temps pour prendre conscience de ses erreurs. Et puis ça me permet ensuite, la conscience va me permettre d'y réfléchir, de réfléchir aux conséquences de mes actions et de corriger peut-être des heures ou des jours plus tard le comportement dans une situation similaire.
Donc la conscience, elle nous sert dans notre rapport aux autres.
Alors en particulier chez l'homme, parce que l'homme a un cerveau social extrêmement développé, la conscience permet de formuler les pensées de manière à les partager avec d'autres. Donc d'abord nous les formulons en nous-mêmes, nous les rendons explicites, nous en sélectionnons un petit ensemble et ensuite le langage nous permet de les communiquer à d'autres et effectivement c'est une fonction très particulière de la conscience qui fait que un critère essentiel de conscience c'est est-ce que la personne peut rapporter l'information. Si elle peut la rapporter verbalement, si elle peut en parler, c'est qu'elle a été consciente de cette information.
Antonio Damasio, je vous laissais réagir à cet éclairage de Stanislas Dehaene, mais ce qui m'intéressait aussi, au-delà du, vous l'avez déjà dit, du langage pour exprimer nos émotions, c'est que la conscience, ça servirait aussi à apprendre de nos erreurs.
Oui, mais je suis absolument d'accord avec Stanislas, mais c'est vraiment, c'est un autre niveau de la même chose dont je parle.
C'est ça.
C'est toujours un process d'informer. La conscience telle que Stanislas vient de nous décrire nous informe de nos erreurs et nos certitudes mm-hmm. aussi et ça nous aide dans notre comportement dans le monde. Mais ça, c'est l'essentiel, c'est qu'il y a là une information. Dans le début de la conscience, avec les sentiments, c'est une information très basique, mais qui est très importante parce que sans elle, il n'est pas possible de continuer à vivre. Ce n'est pas possible d'avoir un nouveau niveau de contrôle de la vie. Parce que, regardez, c'est très important, il y a un contrôle de la vie qui est automatique, que nous partageons avec toutes les formes vivantes.
Pour nous maintenir en vie.
Il y a un contrôle de vie.
Et automatique, inconscient.
Inconscient, voilà, vous avez choisi le mot juste. il n'y a pas de connaissance et ce n'est pas nécessaire de connaître pour faire ce contrôle.
Pour respirer, pour déglutir, pour faire ce genre de choses.
Hein, mais ça. Avec nous, il y a les deux contrôles. Il y a l'automatique, évidemment, qui continue. Quand on a de la vie, on a ces contrôles automatiques. Mais il y a cette nouvelle façon de réguler notre vie qui vient de notre possibilité de savoir, notre possibilité de réfléchir. Et évidemment, c'est, comme Stanislas dit, la possibilité de corriger des erreurs qu'on a fait. Alors, c'est un prolongement de cette possibilité que le sentir au vrai sens nous donne. Et c'est pourquoi mon nouveau livre s'appelle « Sentir et savoir ».
Eh oui, « Sentir et savoir ».
Il y a un sentir très simple qui est seulement une forme de détection qui se passe autour de nous, mais il y a le sentir des sentiments, quand on a vraiment le sentiment de ce qui se passe dans notre vie, comme j'avais dit, le sentiment de la douleur ou du bien-être, de la faim ou de la soif, et il y a vraiment après le savoir qui est un petit savoir de réguler notre vie immédiate, et le grand savoir qui vient avec la réflexion philosophique, la réflexion sur une vie sociale très complexe comme nous avons.
Est-ce que votre ouvrage aurait aussi pu s'intituler, Antonio Damasio, finalement, « Ressentir et le savoir »
Oui. Oui, ça serait possible. Moins beau, je dirais.
Moins beau, c'est vrai, parce que sentir et savoir, c'est magnifique. Et en même temps, vous, justement, vous sentez, vous savez que vous sentez. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça peut permettre, je ne sais pas si c'est de vivre une vie plus pleine, mais entre le temps où l'on sent, le temps où l'on sait, tout ça est assez complexe. Est-ce que vous, ça vous permet de vivre autrement, de ressentir les choses autrement, ou est-ce que vous pensez que ça peut aussi avoir des applications pour chacun d'entre nous dans la manière dont nous pouvons, en le sachant, sentir et savoir?
Oui, il y a beaucoup d'applications. Par exemple, quand vous me posez la question, je pense à la possibilité de l'art. Possibilité d'écrire, pas écrire des rapports scientifiques, mais d'écrire
des poèmes,
un poème, ou la possibilité de construire de la musique ou de jouer de la musique, ou la possibilité de faire un beau tableau. Toutes ces possibilités, ça ne serait pas possible sans conscience, évidemment. Il y a là cette connaissance de nous, connaissance de notre vie, qui s'exprime, même si elle n'est pas apparente au premier moment. Et aussi, il y a une projection sur tout ce qui se passe dans le monde social. Vous savez, tout ce qui se passe dans le monde de notre économie, de notre politique, de nos règles éthiques, tout ça, c'est vraiment une projection de ce qui se passe dans notre vie, qui nous connaissons parce que nous avons des sentiments. C'est quelque chose de si vous réfléchissez un peu sur les structures qui nous trouvons dans la vie sociale du moment, vous trouverez des choses qui semblent beaucoup à la régulation de la vie.
Par exemple,
qu'est-ce que c'est la régulation économique dans un pays? Qu'est-ce que c'est, par exemple, quand vous avez des règles de comportement au sujet des autres, des choses que vous devez faire et des choses que vous ne devez pas faire.
La morale ou...
Tout le sens moral, ça vient, c'est une projection de ce qui se passe dans la vie de notre corps. C'est seulement dans ce cas une vie sociale, une vie où il y a beaucoup d'habitants, il y a beaucoup de personnes séparées, mais qui doivent suivre un certain chemin pour que la vie continue à être possible.
D'où l'importance de savoir justement ce que l'on ressent, de savoir à quel point c'est important, de savoir à quel point on colore notre conscience, finalement, colore tout ce qui se passe, d'où l'intérêt d'être conscient et de plus en plus conscient. C'est aussi à ça que vous travaillez, à nous rendre plus conscients. Antonio Damasio, autour de cette question, comment et pourquoi la conscience émerge aussi de nos sens? Comment et jusqu'où l'écoute et la pratique de la musique, vous l'avez dit, peut faire de fructueuses connexions entre notre corps et notre esprit, le meilleur de nous-mêmes, les mains et le cœur. Vous citez la pianiste Martha Argerich dans votre essai « Sentir et savoir », Antonio Damasio. Écoutons son interprétation de « Casse-noisette » de Tchaïkovski et nous aurons des sensations, évidemment. Casse-noisette de Tchaïkovski, voilà un morceau qui nous met en joie et on en est conscient en plus, surtout interprété par la pianiste Martha Argerich que vous citez dans votre dernier ouvrage, Antonio Damasio, Sentir et savoir, ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis, auditeurs à l'esprit ouvert, libre et conscient. Pourquoi citer à cette merveille, moi j'ai envie de dire, de notre humanité, c'est-à-dire la musique et cette pianiste, cette alliance entre les doigts, la main, le cœur, le cerveau et notre bonheur à nous.
Oui, je pense qu'il y a un passage dans le livre. J'écoute beaucoup de musique et j'aime bien quelques interprètes. Martha Argerich, un autre, c'est Maria Joan Pires. Elles sont absolument merveilleuses dans des registres différents, mais quand même, elles sont merveilleuses. Mais c'est parce que il y a là vraiment une expression de l'affect. Il a une expression des sentiments que, évidemment, le compositeur a eu quand il a fait la composition, et aussi la forme dont l'interprète va choisir de faire les sons et de les mettre en jeu. Et c'est quelque chose de très bon, et c'est une articulation qui nous donne vraiment ça nous mène de nouveau au commentaire de Lionel Nakache au début. C'est un nouvel plateau de la conscience. Ce n'est pas évidemment le plateau du commencement. C'est quelque chose de très élevé qui porte sur le monde qui nous entoure, dans ce cas le monde auditif. Mais la liaison entre ça et notre vie et notre sentiment continue. Et ça ne serait pas possible d'apprécier la qualité de production de son de Martha ou de Maria Joan s'il n'avait pas cette liaison permanente. Et on ne perd pas cette liaison. Peut-être on la perd quand on parle, par exemple, de l'intelligence artificielle, où là, il n'y a pas un corps, il n'y a pas une vie, il n'y a pas des sentiments. Là, on perd ce lien. Mais dans nous, ça continue. Et ça va jusqu'au bout. Dans l'art ou dans la philosophie, ce lien continue.
Est-ce que ça ne serait pas ça, moi j'ai envie de dire, Antonio Damasio, ben justement le meilleur de notre humanité, enfin de la conscience de notre humanité, et qui est flagrante en musique, je trouve, quand on voit des êtres humains sur scène, qu'on les écoute et qu'on les voit jouer, s'harmoniser, s'accorder ensemble. C'est vraiment, moi j'ai l'impression que dans tout l'art d'ailleurs, et dans la science, quand elle est vraiment au sommet de ses recherches, quand on est en communion, quoi, de conscience, donc effectivement, de l'esprit, du corps, du cœur, de nos sentiments, de notre raison, que tout ça, d'un seul coup, à un moment, s'accorde, se rassemble et on se fait ensemble dans la même direction, c'est ça?
Absolument. Et je pense que le mot juste, c'est communion.
Communion.
Et tout va ensemble. Oui.
Vous avez dit, Antonio Damasio, vous venez de dire que justement ce fil-là, cette communion, cette conscience-là humaine, elle a certaines limites, notamment quand il s'agit de parler d'intelligence artificielle. J'ai envie de vous proposer une dernière question, soulevée par une de mes consoeurs, Cécile Estienne, rédactrice en chef de Cerveau et Psycho. Écoutez-la et vous réagirez ensuite.
La définition de la conscience, la théorie de la conscience fait encore débat parmi les chercheurs. Il semble qu'au sujet des organoïdes, ces petits organes, ces mini-cerveaux qu'on a réussi à faire pousser en laboratoire et observer, analyser en laboratoire, certains chercheurs se demandent si ces organoïdes pourraient avoir une conscience. Et du coup, ça poserait effectivement des questions éthiques. Pensez-vous que ces petit tas de cellules qui ne sont reliées à rien, effectivement, qui n'ont pas de sens, pas d'émotion, pourraient effectivement avoir une conscience?
Qu'en pensez-vous, Antonio Damasio? Est-ce que c'est possible? Donc, pas de corps et une conscience?
Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas une conscience exactement comme la nôtre. Il y a une possibilité de relier les connaissances dans un système artificiel. Mais il n'y a pas la possibilité, je dirais non, ces systèmes ne sont pas conscients, exactement parce qu'ils n'ont pas de corps, parce qu'ils n'ont pas de vie, parce qu'ils n'ont pas cette possibilité d'être bien ou être mal, de continuer ou de mourir.
Pour avoir la conscience, il faut être dans cette tragédie-là, si j'ose dire, dans cette condition de vivant.
C'est cette condition humaine où il y a la possibilité de continuer, mais il y a aussi la possibilité de mourir. Et nous savons que notre vie est limitée, il y a un commencement, il y a en finale. Aussi, votre question me fait penser à une quote une citation de mon ami Peter Brook. Mm-hmm.
Metteur en scène de théâtre. Citez Peter Brook, Antonio Damasio, avec grand plaisir.
Mais voilà, il a écrit, et je le lis, c'est au début de mon livre, « The life of a play begins and ends in the moment of performance », qui on peut dire en français, « La vie d'une pièce commence et finit au moment où elle se joue ». Et c'est exactement ça. Notre vie, cette pièce que Peter Brook a fait magnifiquement toute sa vie, c'est de jouer ces pièces et comprendre que là, il y a un moment où les choses commencent, mais il y a aussi un moment où les choses finissent.
C'est dans le présent, au fond. La conscience, c'est vraiment dans la vie présente.
Voilà. Mais il y a la vie, il y a ce drame énorme, ce grand théâtre, la possibilité de continuer ou non, la possibilité de continuer bien ou de souffrir.
Et on a le choix, en fait. Vous pensez qu'on a un peu quand même le choix?
On a un peu quand même le choix parce que nous sommes conscients. Mais le choix, il est limité. On ne peut pas tout contrôler, mais on peut essayer de faire mieux. Et c'est ça exactement ce que le sentir nous donne. Parce que si nous avons le sentiment et nous avons la connaissance de ce qui se passe, on peut essayer de faire mieux, on peut essayer de se sauver. Sans ça, ce n'est pas possible. Avec l'ordinateur, il n'y a pas de drame. Il est là, il continue, même si on a, par exemple, à mon laboratoire, nous faisons, il y a un groupe qui étudie l'intelligence artificielle et nous essayons à ce moment de introduire une vulnérabilité dans les systèmes, dans les robots, pour faire quelque chose de semblable à la vie humaine. C'est pas à la vie humaine, à l'esprit humain. Et c'est curieux parce que quand on introduit cette vulnérabilité, les choses se passent bien avec le robot. Mais ce n'est pas la conscience. C'est seulement...
C'est juste un peu de vulnérabilité, un peu d'humanité, une petite faille, quoi. On lui met une petite faille.
Et regardons alors, notre évolution continue. Et notre évolution a réussi avec des êtres comme nous, exactement parce qu'ils sont vulnérables. Non pas parce qu'ils sont invulnérables. C'est exactement le contraire. Et c'est curieux de penser que la vulnérabilité nous donne la capacité de continuer. Parce que c'est paradoxal.
Magnifiquement paradoxal. Vous nous faites l'éloge de la vulnérabilité.
Voilà.
Vous avez cité Peter Brook, Antonio Damasio. On va terminer cette émission. Me vient en tête cette phrase de Leonard Cohen. There's a crack in everyone. That's how the light gets in.
That's perfect.
C'est ça. Il y a une faille en chacun de nous. Et c'est par là que passe la lumière. C'est par là que passe la conscience. Si j'ai compris.
Vous avez compris complètement.
Merci infiniment, Antonio Damasio, d'être venu nous éclairer ici, dans notre studio sur RFI. Je rappelle le titre de votre dernier essai absolument passionnant. Sentir et savoir. Une nouvelle histoire de la conscience. Paru aux éditions Odile Jacob. Et je vous rappelle, chers amis auditeurs, que vous aurez peut-être la chance de sentir et de savoir, c'est-à-dire de gagner l'ouvrage d'Antonio Damasio si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, en toute conscience, évidemment. Au revoir Antonio Damasio, vous revenez chez nous quand vous repassez par Paris.
Absolument, avec plaisir.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à nous réécouter, à vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro. Nous serons en duplex avec un entomologiste génial qui a eu la folle idée de diriger un énorme ouvrage collectif sur tous les insectes du monde, enfin presque. Vous ne serez pas déçus du voyage autour de la question comment approcher le monde fabuleux des insectes dans son incroyable diversité et dans sa toute beauté. Merci pour votre curiosité. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.